Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Ça m'a manqué de faire, ça m'a manqué de faire cette intro. J'espère que tu as passé un très très bon été. J'espère que tu as fait plein d'activités. J'espère que si tu n'as pas eu l'occasion de faire des activités et que tu as été overbooké cet été, bah, que tu vas prendre tes vacances bientôt et que tu vas pouvoir te reposer. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait très longtemps, enfin très longtemps en grand terme. Ça fait quelques. Je crois la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était début août. Quand je rentrais de vacances. Et ouais, nouvel épisode de rentrée. On repart sur de la rigueur, parce que j'ai pas été rigoureuse de fou cet été, je vais pas mentir. Donc ouais, on repart sur de la rigueur, on repart sur des nouvelles thématiques. Et on se retrouve pour l'épisode de rentrée, qui est un épisode assez chill, assez freestyle, que j'ai pas trop rédigé. Parce que j'avais envie qu'on discute un peu de. Ouais, qu'on ait une petite discussion de rentrée. Je pense que t'as, dans tous tes autres podcasts, tu auras sûrement ton petit mot de motivation de rentrée. Et ouais, moi je voulais un peu faire ça en mode. Une sorte de brownie sans être un brownie, tu vois. C'est-à-dire ce sera pas 10 minutes, mais ce sera assez spontané. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait cet été depuis que je t'ai pas parlé? J'ai trouvé du taf il y a pas très longtemps. La dernière fois que je t'ai fait un épisode, c'était l'épisode Je n'ai plus le choix, je n'ai pas le choix. Et en gros, je te parlais du fait que quand tu arrives à un stade où tu postules énormément et que tu reçois énormément de refus. Tu arrives à en douter de tes capacités et aussi le fait que lorsque tu te lances sur le marché du travail, tu te lances pas forcément par passion, mais tu te lances parce que bah, il faut l'argent, c'est le nerf de la guerre et t'as pas forcément un but précis. En tout cas, c'est mon cas, mais que faut continuer dedans parce que bah, t'as pas le choix en fait. C'est que c'est ça, c'est un mode de vie et que. Tu peux être dans un mood où tu vas te dire, bon, je n'ai pas forcément envie de travailler pour quelqu'un, mais je ne sais pas forcément quand je vais travailler pour moi. Donc juste lance-toi dans la bonne entreprise qui prend, on va dire, les critères en majorité qui sont importants pour toi, qui vont te permettre de te former. Lance-toi. Et aussi dans CDI, enfin surtout pour les gens qui se lancent dans un CDI pour une première fois ou qui y sont et qui se sentent un peu coincés, il y a un contrat à durée, mais il y a aussi le I de indéterminé. Autant c'est la boîte qui peut te laisser, autant toi aussi tu peux laisser la boîte après 3-4 ans. Enfin, t'es pas obligé de, quand tu signes un CDI, tu signes pas ta vie dans une boîte. Donc tu peux avoir des perspectives au-dessus de ça et peut-être te permettre de rêver au-delà et utiliser ce travail comme comme un moyen vers une sorte de destination qui serait celle de soit travailler pour toi ou soit de découvrir ce que tu veux faire dans la vie. C'est important de se poser des questions sur ça et je pense qu'après cet épisode, étant donné que j'étais pile poil dans cette phase-là où j'étais en train de postuler comme une malade, j'ai recensé, je crois que j'ai fait 21 entretiens en tout pour une dizaine d'entreprises, sachant que j'ai fait minimum. Et quand je parle d'entretien, c'est les 30 entretiens de 30 minutes. J'ai fait tellement d'entretiens dans ma vie depuis le mois de mai, sans parler du nombre de refus par mail. En fait, moi, mes refus par mail, je sais pas si je te l'ai dit dans l'ancien épisode, mais je les supprimais. À partir du moment où tu sais, t'as le long message, votre candidature pour le poste de X a été vue par, ou t'as un long message qui commence par malheureusement est supprimé, poubelle archivée. Moi, je veux pas de négativité dans mon téléphone, j'ai déjà trop donné. Donc, je pense que entre les entretiens qui n'ont pas abouti jusqu'à l'entretien où j'ai eu mon travail la semaine dernière et les refus par mail que je me suis reçus, je pense que je suis sur plus d'une centaine de CV envoyés, sachant que j'ai commencé à envoyer mes CV en début mai et que j'ai eu littéralement la réponse pour mon travail que je vais commencer la semaine prochaine, le 31 août. Et j'ai eu, on va dire, le privilège de pouvoir ne pas accepter un travail parce qu'il m'acceptait, parce que j'ai eu des trucs qui m'ont accepté, mais j'ai dit non. Et celui-ci, ça a été le bon. C'est-à-dire que c'est la fois où, quand j'ai fini l'entretien, vu que je suis allé faire l'entretien sur place, quand j'ai fini l'entretien, il y a une petite voix qui s'est dit, franchement, s'il te refuse, ça va te faire un peu mal. Genre, tu vas passer au-dessus. Ton ego sera froissé parce que ça reste un refus et que tu en as reçu plusieurs. Mais bizarrement, celui-ci fera un peu plus mal que les autres, tu vois. Et quand j'arrive à ce stade-là où j'ai une sorte d'attachement personnel, entre guillemets, avec l'espace, l'entretien, et moi, quand je vais sur place, je regarde la diversité. Que ce soit en termes d'ethnicité ou en termes de sexe dans la boîte, à la manière dont les gens sont habillés. Parce que moi, si c'est pour aller serrer le cou dans un costume cravate, parce qu'à la fin de ma vie, c'est pas pour moi. Donc, ouais, j'ai eu la bonne nouvelle le 31 août, qui est pile poil un an après le fait que mon CDI soit terminé dans mon ancien taf. Pour une vétérante de postuler, Si tu es en train de postuler, si tu finis tes études, tu es en train de postuler, tu as l'impression qu'on ne te répond pas, tu as l'impression que tu perds ta valeur ou un truc comme ça, sache que moi, je te dis que ça devient mieux à chaque fois. Ça va s'améliorer, tu vas trouver une boîte. Si tu es dans l'urgence, essaye de lancer tes recherches dans quelque chose qui peut quand même t'apporter quelque chose de positif. Mais bon, on va en parler de toute façon aujourd'hui. On est là parce que j'ai vu un tweet. J'ai vu un tweet en fin août, genre le 20 août, un truc comme ça, qui était hyper intéressant et que j'ai enregistré sur ma page Insta. Et je sais pas pourquoi je l'ai enregistré, j'avais même pas prévu de t'en parler, mais hier j'étais en train de brainstormer ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, on va réagir à ce tweet-là. C'est un tweet qui a été fait, mais c'est la réponse au tweet qui est hyper intéressante. Donc le tweet en lui-même, c'est un tweet en anglais, donc je te traduis vite fait. Donc c'est en gros pour les personnes de 26 ans et plus. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans? Et la personne qui a répondu au tweet, la personne a dit, il y a peut-être un jour qui va arriver très tôt où tu vas réaliser que tu n'as pas de passion spécifique pour une carrière. Donc, tu n'as pas envie forcément de te lancer dans une carrière ou tu n'as pas de passion dans un domaine pour lequel tu pourrais te lancer. Et tu vas juste vouloir faire de l'argent de manière durable, de manière éthique. Et tu devrais réaliser ça maintenant avant que tu choisisses un diplôme ou une carrière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'en ai encore parlé avec une pote il n'y a pas longtemps au téléphone. On s'est rendu compte, nous deux, que le diplôme qu'on a choisi, donc le fait d'aller dans l'école dans laquelle j'étais, on est vraiment allé là-bas soit pour prouver quelque chose dans notre entourage, parce que bah il fallait qu'on aille à l'école. Mais pas parce que c'était vraiment le choix. Honnêtement, aujourd'hui, lorsque je pense à ce que j'ai fait, je regrette pas ce que j'ai fait, hein. Je pense que c'est tout choix de vie doit. Enfin, tout ce qui doit se passer, entre guillemets. Je crois pas vraiment au destin, mais des fois, je sais pas sur quoi blâmer ça, donc je blâme ça sur le destin. Mais je me dis que ouais, ce qui devait arriver, arriva. Et je ne regrette pas parce que la carrière, entre guillemets, que je m'apprête à commencer, par rapport aux études que j'ai choisies, c'est intéressant, tu vois. C'est pas un truc que quand je me lève le matin, j'ai les papillons au ventre, c'est-à-dire c'est pas une passion pour moi, mais c'est intéressant. Et je me rappelle, on se disait que si moi, par exemple, j'aurais choisi quelque chose, si avec le cerveau que j'ai aujourd'hui, tu me disais à 18 ans, ok, Ren, qu'est-ce que tu veux faire ou quelle filière est-ce que tu veux faire, peut-être j'aurais plus fait dans la psychologie. Et peut-être que j'aurais fait de la psychologie et j'aurais fait du business juste après, tu vois. Mais étant donné qu'à l'époque, j'étais très perdu, je me suis dit, tu sais quoi, va dans ton école, tu vas apprendre de tout. Je ne savais pas que j'allais être spécialiste dans rien. Malheureusement, quand j'ai signé dans cette école-là, je savais que j'allais apprendre de tout et je pensais me spécialiser. Mais finalement, ma dernière année, j'ai vu que j'avais rien à spécialiser. Enfin, j'ai juste choisi, je crois que j'ai choisi spé marketing parce qu'il y avait que ça, en fait. Il y avait soit ça, soit les finances. Moi, les finances dans ma vie, franchement, je vais payer quelqu'un pour gérer mon argent. Donc, moi, je me suis dit, quoi, fais du marketing, c'est cool, c'est créatif, c'est beau, tu vois. Et ma pote, pareil, elle s'est rendue compte que, bah, si elle devait choisir avec le cerveau d'aujourd'hui, elle aurait fait une filière qui n'a rien à voir avec ses études. Et ce tweet, ouais, c'est ce qui l'a un peu éveillé en moi, c'est que je me suis rendu compte que lorsque tu arrives à cet âge-là où tu finis tes études, donc moi c'était l'année dernière, et que tu te lances dans une carrière, c'est-à-dire moi cette année, tu te rends compte que finalement tu ne vas pas forcément trouver ta passion dès maintenant, ce qui peut être très stressant, parce que des fois, en plus avec les réseaux sociaux, tu sais, tu vois les personnes de notre âge, entre, on va dire, 25 et plus, qui lancent leur propre entreprise à partir de 25 ans, qui travaillent qui ont des jobs de rêve presque. Tu vois cette passion autour de toi, mais tu ne la ressens pas. Et des fois, tu peux te sentir dans une situation où tu te dis, ah ouais, moi, à cet âge-là, je devrais savoir ce que je veux. Et c'est ça un peu le truc qui est chiant avec le fait d'être adulte. Et je pense l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé ce podcast, c'est que à partir d'un certain âge, en fait, quand tu es enfant, on te dit, ok, l'âge, 7 ans, c'est l'âge de la raison. Entre-temps, tu auras la puberté où tu pourras faire du n'importe quoi, où tu vas agir selon tes hormones. Mais à partir de 18 ans, tout devrait être carré. Tu devrais savoir au minimum où tu veux. Tu vas prendre tes responsabilités, tu vas t'émanciper. Et à partir de 18 ans, tu dois savoir tout ce que tu veux faire dans ta vie tout le temps. Sauf que la vie d'adulte, c'est une sorte de vie d'enfant, en fait. C'est que tu vas naviguer, ton bateau il est là, est-ce qu'il va couler, est-ce qu'il va pas couler, mais t'essayes de pagayer pour rester à la surface, tu vois. Et c'est compliqué de se dire que des fois, à 25 ans, tu peux ne pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie. À 30 ans, tu peux ne pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Tu peux faire quelque chose parce que ça te fait de la, parce que tu as de l'argent. L'argent que tu fais, tu le fais de manière durable. Donc pour moi, de manière durable, c'est-à-dire avoir un CDI ou enchaîner des contrats qui font que tu n'as jamais de trou financier, entre guillemets, mais et de manière éthique. Et ce truc, pour moi, il était hyper intéressant et très réconfortant parce que je me suis dit, ok, je ne suis pas seule dans cette situation. Moi, aujourd'hui, la manière dont j'ai choisi le travail que j'ai choisi, c'était par pure stratégie. Que là, je vais me lancer dans une filière qui est en rapport avec le service client. Le service client, c'est un truc qui a boomé depuis quelques années parce que les gens se rendent compte que bah, les gens déposent leur avis sur Internet, les gens partagent leur avis sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent vraiment en avant le service client, ce qui fait que le service client n'a plus le stéréotype de tu vas répondre au téléphone, tu vas envoyer des mails. Il y a de la stratégie derrière et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que c'est ma passion? Non. Est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? Non. Mais j'ai trouvé une sorte de compromis dans lequel je me suis dit, ok, quand j'ai pris mon année où j'ai pris le contrôle de mon temps, si t'as pas vu cet épisode-là, c'est l'épisode Une vie de chômeuse, choisir une vie de chômeuse, donc l'épisode 1 et 2 de mon podcast. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre le temps d'apprendre des trucs que j'ai pas pu apprendre à l'école et éventuellement, le but, ce serait de me trouver une vocation, voire de me spécialiser dans quelque chose qui serait intéressant, sachant que j'ai un background service client, parce que j'ai travaillé 3 ans dans une boîte où j'ai fait ça. J'ai étudié plein de trucs, j'ai étudié dans tout ce qui est gestion de projet, enfin étudié entre guillemets, j'ai fait des formations en ligne et des cours gratuits dessus. J'ai appris plein de trucs et à un moment j'ai abandonné aussi parce que dans la vie il faut être humain. J'avais un peu la flemme, je vais pas mentir. Donc quand j'ai recommencé, j'ai commencé à apprendre à utiliser certains logiciels. Donc en fait quand j'ai commencé à postuler, j'ai vu que dans les différentes annonces auxquelles je postulais, on demandait de connaître certains logiciels. Donc pareil, aller regarder des vidéos YouTube et autres. Mais c'est vrai que la réalité m'a frappé quand en postulant, et il y a beaucoup de gens, je pense, qui se rendent compte de ça. Quand tu postules, honnêtement, on m'a jamais demandé ce que j'ai appris à l'école. Honnêtement, en fait, quand tu postules, en fait, c'est ça le fléau aussi du marché du travail, c'est qu'on te demande tellement d'expérience quand tu as un CDI que si tu as passé toute ta vie à charbonner à l'école, à part si tu es dans les écoles d'élite, genre HEC, Sciences Po et tout, ou bah. Déjà, ton CV est favorisé par rapport au reste parce que le logiciel qui trie les CV est littéralement programmé pour te mettre en avant. À part si tu as ça, ou si tu as une bonne CPGE, ou je sais pas, bonne école de bonne, enfin, bonne université, tout ce que tu veux. Quand tu postules, enfin, on te demande d'avoir de l'expérience. En fait, c'est bien beau que tu me dises que tu as fait des cours de marketing international, mais est-ce que tu peux analyser des KPIs? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as de la pratique tout simplement dans le poste pour lequel tu postules, surtout quand tu postules en CDI? Même si certaines entreprises vont vouloir des gens en sortie d'école, la plupart des gens qui prennent en sortie d'école, enfin quand je dis sortie d'école, c'est université et autres études supérieures que tu peux faire avant de te lancer en CDI, le minimum qu'on va te demander, c'est de l'expérience en fait. Personne ne veut, et c'est logique, un peu tu l'en veux, mais c'est un peu logique, c'est personne ne veut quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordi, qui ne sait pas utiliser un logiciel pour, je sais pas, répondre à des mails si c'est dans mon cas, qui ne sait pas lire certains KPIs ou qui n'a pas un esprit d'analyse, donc quelqu'un qui n'a pas été sur le terrain. En fait, personne ne veut avoir à former quelqu'un de A à Z quand tu peux littéralement prendre quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience, voire plus, dans le domaine pour lequel il postule. Donc déjà, tu as cette frustration-là. Et lorsque j'ai commencé à postuler, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, en fait, tout ce que tu as appris sur le côté de tes petites formations, gestion de projet et tout, c'est bien beau, mais lorsque tu le mets sur le papier et que tu essayes de postuler, t'as du mal à avoir des retours parce que t'as pas d'expérience. Et à partir de là, lorsque j'ai eu cette réalisation, je me suis dit, ok. Et j'ai eu cette réalisation, je pense, en juillet, genre 2-3 mois après. En fait, je postulais un peu dans tout. Je postulais autant dans la gestion de projet, autant dans le produit, autant dans le service client. Et j'ai eu une illumination un jour. Enfin, je pense que c'était déjà dans la cave de ma tête, mais c'est monté au premier étage. Je me suis dit, ok, là, t'es dans une situation où tu n'es spécialiste dans rien, entre guillemets, par rapport à ton diplôme. C'est-à-dire que tu peux même pas dire que ouais, j'ai fait du marketing à l'école pendant X temps, donc je peux mettre ça en avant pour postuler dans du produit ou postuler dans du projet qui sera en rapport avec ça. Je me suis dit, à chaque fois que tu étudies quelque chose, ce qui t'intéresse dedans, c'est le retour client. Mais autant je vais être la personne qui fait le projet, autant je vais être la personne qui discute avec le client pour voir si le projet qui a été mis en place lui plaît. Mais ok, donc le dénominateur commun à tout ça, c'est le fait que je sois quand même intéressé, quelle que soit l'approche que j'ai, que ce soit une approche vente, que ce soit une approche produit, une approche marketing, je suis toujours intéressé par le retour client. En plus de ça, tu as un background client qui est assez intéressant. Concentre-toi sur le fait d'exceller dans cette filière-là, en fait. C'est-à-dire, mets tout en œuvre pour que d'ici à 5, 10 ans, tu sois une spécialiste dans une spécialiste client, en fait. Que tu puisses limite lancer ta boîte de consulting dans la gestion des projets clients ou dans la relation client en général. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce que je vais faire, en fait. C'est que j'ai arrêté de vouloir me bazarder à des trucs où je savais que j'avais un minimum d'intérêt, mais c'était pas. En fait, je m'intéressais pour m'intéresser. Honnêtement, on va parler français aujourd'hui. Je m'intéressais pour m'intéresser, mais il n'y a rien de ça qui me faisait avoir des papillons dans le ventre ou un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis revenue sur ce tweet. C'est que des fois, tu vas choisir une carrière parce que tu as juste beaucoup d'expérience dans quelque chose, tu t'y connais. Donc, pourquoi pas exceller dans ça de manière éthique et te faire de l'argent durable que je vais devenir la meilleure experte en relation client, service client, gestion client, tout ce que tu veux que tu puisses connaître, et je vais exceller dedans. Et ce sera ça ma carrière. Oui, je vais faire d'autres trucs qui n'auront rien à voir. Mais si je veux gagner de l'argent de manière durable, éthique et selon mes propres termes, je vais être excellente dans ce que je vais faire dans le service. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu ce shift-là dans ma tête et que j'ai réalisé que bah, je n'avais pas forcément de passion, mais que j'étais bonne dans le service client, j'ai commencé à tout refaire en fonction de ça et à centrer la manière dont je postulais sur uniquement des postes. Et la manière dont j'ai centré ma stratégie, c'est que j'ai fait d'abord un portfolio. C'est que le service client, ce qui est mauvais, c'est que ça a encore une mauvaise. En tout cas, moi, je sais que j'ai du mal des fois à parler du fait que je fais du service client parce que certaines personnes ont des idées préconstruites sur le fait que le service client, ce soit. Tu sais, t'as le service client, c'est un peu comme SFR, tu vois. Tu vas appeler la personne, oui, bonjour, nanana, elle va t'envoyer 15 000 mails. C'est un peu ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour me rassurer, pour me montrer aussi tout ce que j'avais appris au cours de mes 3 ans, j'ai fait un portfolio qui recensait tout ce que j'ai fait en rapport avec le service client, de près ou de loin, que ce soit à l'école ou au travail. J'ai recensé tous les logiciels que j'ai utilisés, pourquoi je les ai utilisés. Je suis beaucoup plus rentré en détail dans mes tâches, tout ce que j'ai fait, tous les rapports aussi que j'ai fait à l'école par rapport à l'approche client. Toutes les connaissances que j'ai, je les ai mises dans un même portfolio pour me dire que, ok, si je postule demain, au moins je pourrais l'envoyer pour que la personne voie la diversité de missions que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu la chance d'avoir un travail où j'avais beaucoup de missions qui étaient rattachées au service client, mais qui me faisaient travailler avec d'autres équipes. J'ai mis ça dans un portfolio et je me suis dit, ok, voici l'équivalent de 3 ans d'expérience résumée. Et le fait d'avoir ce portfolio, ça m'a permis en fait de faire une liste exacte de tous les logiciels que j'ai appris et de toutes les missions que j'ai pu réaliser pour ensuite, lorsque je postule, avoir une stratégie de tu vas postuler pour un poste qui aura la base des missions que tu sais faire, c'est-à-dire que dans le service client, que tu le veuilles ou non, tu vas faire des mails dans ta vie, parce que ne serait-ce que pour connaître le produit, quand tu te lances dans, que ce soit la gestion de projet client, que tu sois, je sais pas, manager d'une équipe, entre comme ça, tu es obligé de faire des mails. Donc je me dis, ok, postule pour des postes pour lesquels les 2 missions d'entrée, c'est la gestion de mails et la gestion par téléphone, mais qui est pas trop de téléphone. Ça, déjà, c'était un premier check. Deuxième check, c'était postule pour une boîte où il n'y a pas beaucoup d'employés, maximum 250, avec une bonne parité homme-femme. Ce qui est bien sur Welcome to the Jungle, c'est là où j'ai postulé pour avoir le taf que j'ai actuellement. Il te donne la parité homme-femme, tu vois. Donc postule pour ça. Postule pour une entreprise qui est soit internationale, ou soit si c'est national, elle est dans un domaine un peu intéressant. En fait, ma stratégie, c'était que lorsque je postule, je postule en fait, un peu comme si je postulais pour une école. C'est-à-dire que je postule pour une formation que je vais vendre dans 2-3 ans. Parce que moi, j'ai la théorie je t'ai dit ma théorie chelou des 10 000 heures où je ne vais pas passer plus de 5 ans dans une entreprise si je ne le sens pas. J'ai cette théorie-là où je me dis, postule pour une entreprise en pensant à comment est-ce que tu vas vendre cette expérience lorsque tu vas soit passer en entreprise en freelance, soit quand tu vas te vendre pour une autre entreprise. Pense vraiment à, en fait, utilise cette entreprise de la manière dont elle va t'utiliser, c'est-à-dire pour ta main-d'œuvre, mais utilise-la en te disant que j'ai une checklist de savoir que je dois acquérir chez vous, que je pourrais revendre dans 2-3 ans à un prix beaucoup plus élevé. Enfin, le but de cet épisode, c'est quand j'étais dans mes bottes l'année dernière, avec la mentalité que j'avais, je pense que la mentalité que j'ai maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec le podcast, tu vois l'évolution de ma mentalité. On va aborder différents sujets, mais tu vois à quel point je passe de stressé de la vie à quelqu'un de très chill, qui contrôle sa vie, mais qui laisse aussi la vie faire son travail, tu vois. C'est que je me suis rendu compte que c'est un conseil que c'est un tweet que j'aurais aimé lire l'année dernière, par exemple. Et c'est un tweet qui parle à beaucoup de gens. Il y a des gens qui se lancent dans des années sabbatiques qui vont durer 1, 2 ans parce qu'ils savent pas quoi faire, en fait. Et ils ont peur parce qu'ils se disent que mon âge avance, mais je n'ai aucune passion. Sauf que autour de moi, je le vois quand je vois des youtubeurs, quand je vois des gens qui vivent de leur passion, qui créent leur entreprise, des gens avec qui tu étais à l'école, qui, à la sortie d'école, ils ont déjà créé leur entreprise parce qu'ils ont pris des prêts ou que papa, maman les a aidés. Et bah toi, tu te sens un peu à part, tu vois. Tu te sens un peu alien en mode, mais pourquoi est-ce que l'école était censée me donner cette passion, l'école était censée me donner cette spécialisation et ce drive, mais je ne l'ai pas. Et ça te fait questionner beaucoup de choses sur ta vie. Ça te fait questionner les choix que tu as pu faire. Ça te fait peut-être avoir un sens de regret sur pourquoi est-ce que j'ai commencé ça. Si je savais quand je me lançais à 18 ans, peut-être je serais allé à l'université au lieu d'aller en école. Peut-être que j'aurais fait des études en médecine et oui, j'aurais galéré, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc ouais, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de questions que tu vas te poser. Il y a beaucoup de doutes que tu auras. Mais le truc, c'est que même à un âge avancé, c'est-à-dire quand tu finis tes études, t'es pas obligé de savoir quoi faire dans la vie. Mais au moins, tu sais que t'es bon dans quelque chose. Tu peux être bon dans que du marketing, tu vois. Tu peux avoir fait des stages en marketing vite fait, t'as vu que ça te plaisait. Ça te dérange pas de faire ça pendant 10, on va dire encore d'ici à 10 ans. Ça te dérange pas si tu te lances si tu lances ta boîte dedans éventuellement, vas-y, tu vois. T'as pu travailler en magasin et tu dis, bah moi j'ai kiffé travailler en magasin. C'était pas ouf, enfin c'était pas un truc incroyable que d'être vendeur ou un truc comme ça, mais je peux me poser dedans et je deviens responsable de magasin. Et puis voilà, c'est qu'on a une certaine culture de la richesse qui bizarrement en France n'est pas acceptée mais qui est beaucoup poussée. Tente, en fait c'est un compromis, la vie des fois c'est juste un compromis, hein. La vie des fois c'est juste, c'est pas le truc le plus intéressant dans ma vie, c'est pas le truc qui me donne des papillons dans le ventre, qui me fait frétiller, mais c'est un truc que je trouve cool, ça me dérange pas de le faire. Je peux encore contrôler certains facteurs comme là où je vais travailler, comment est-ce que je vais travailler, à quoi va ressembler mon environnement, mais est-ce que mon travail c'est un truc qui, quand je dors la nuit, je rêve de ça? Non, non, et c'est normal. C'est normal d'avoir un travail ou d'avoir une carrière dans un truc qui ne te passionne pas forcément. C'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu. C'est là où j'ai compris un peu le but de l'école, c'est-à-dire que je vais te donner des outils qui un jour vont te servir dans ta vie. C'est que moi, un truc que j'ai fait par exemple par rapport à mon nouveau travail, c'est que je me suis fait un questionnaire que, bon, je vais pas remplir, je vais pas bien le remplir, on va dire, les 3 prochains mois parce que ce sera beaucoup plus des mois de formation, mais c'est un questionnaire que je vais remplir à la fin de tous les mois ou tous les 3 mois où je verrai un peu la fréquence. Pour le moment, ce sera tous les mois, mais peut-être sur le long terme, ce sera tous les 3 mois. Et c'est un questionnaire qui me permet de recenser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai réalisé pendant cette période. Avec les entretiens, je pense que ce qui est bien aussi, c'est si tu postules en ce moment, ne refuse aucun entretien. Parce qu'un entretien, c'est toujours une manière de parler en public. Des fois, tu fais un entretien avec plusieurs personnes, à part si tu dois te déplacer sur place. Moi, tous mes entretiens, je les ai faits en visio et j'ai fait peut-être 2, 3 entretiens en présentiel. Mais ne refuse pas un entretien. Parce qu'un entretien, c'est toujours une occasion de te présenter. C'est toujours une occasion d'avoir des feedbacks sur la manière dont tu te présentes. C'est toujours une manière aussi d'avoir des questions que toi aussi tu peux poser après à d'autres entretiens qui sont beaucoup plus intéressants. Moi, j'ai eu des entretiens en français et en anglais. Donc maintenant, je suis carré pour me présenter en français et en anglais. En fait, un entretien, c'est gratuit en soi. C'est une personne qui t'envoie un lien Zoom ou un lien Google Meet et qui dit, viens, on parle pendant 30 minutes. Dis-moi qui tu es. Dis-moi pourquoi est-ce que tu as postulé chez nous. Donc ça te permet après de. C'est une manière un peu de perfectionner ton speech et de perfectionner aussi ta manière de parler, ta manière de t'exprimer à l'oral. Des fois, tu vas te rendre compte que tu parles trop, donc tu vas apprendre à résumer, tu vas apprendre à capter l'attention, tu vas apprendre à dire des mots-clés. Donc franchement, si tu es en train de postuler, ne refuse jamais un entretien. Même si tu sais que le poste, tu ne le voudras pas sur le long terme, quitte à ce que tu dises après l'entretien, oui, je suis désolé, mais je ne vais pas donner suite, ne refuse pas un entretien parce que c'est très, très, très important. Tu sais pas quoi faire, excelle dans ce que tu sais faire. Tu sais, t'as pas de passion, excelle dans ce dans quoi tu es bon, tant que ça te dérange pas de le faire longtemps. Tant que ça te dérange pas de le faire jusqu'à ce que tu trouves ta passion. Et c'est un peu ça l'épisode d'aujourd'hui. C'est de revenir sur ce tweet-là et de comme mot de rentrée. Parce que la rentrée, c'est bien beau, tu sais, quand c'est la rentrée, on parle du renouveau, de s'inscrire, un peu comme le nouvel an, on parle de allez, viens, viens que je vais m'inscrire à la salle, j'ai des nouvelles résolutions, on parle du renouveau. Mais Il y a des gens aussi, ils sont perdus. Moi, j'étais perdue hein, l'année dernière. C'est pour ça que j'ai arrêté. Soit c'était je fonce tout droit dans le mur et je fais un burn-out avant l'âge de 30 ans. Soit je prends mon temps, je recule d'une année et je trouve ce que je trouve ma passion. Je vis la meilleure année de ma vie. Tu vois, moi, cette année, je regrette pas une minute ce que j'ai pu faire cette année. J'ai fait des trucs, mais jamais de ma vie je ferais ça en temps normal. Mais il fallait que je me retire du marché du travail. Il fallait que je recule pour mieux sauter. Là, j'ai reculé, là, j'ai sauté, j'ai atterri dans un truc intéressant, tu vois. Est-ce que c'est ma passion? Absolument pas. Je répète encore ça une fois. C'est pas ma passion, mais j'aime bien. Donc je le parle, on parle pas des gens qui sont perdus à la rentrée. On parle pas des gens qui finissent leurs études ou qui se posent des questions à savoir si est-ce qu'ils vont continuer un an de plus au travail, surtout quand tu rentres de vacances, c'est là où t'as les plus grosses remises en question. On parle pas assez de ce genre de personnes-là qui peut-être sont en reconversion professionnelle ou se rendent compte que ce qu'ils font depuis des années, ça les intéresse pas du tout. Donc ils se demandent s'ils ont un sens réel parce que à Skip, le but de la vie, c'est d'y trouver un sens assez tôt, ce qui n'est pas le cas pour moi en tout cas. Enfin, moi, c'est pas ma logique. Pour moi, tu peux pas trouver un sens à ta vie tôt. Pour moi, c'est comme le One Piece, tu vois. Il n'y a pas de trésor en soi. C'est juste tu te retrouves en trouvant le trésor. Enfin, c'est non, il n'y a pas de trésor, mais c'est la quête qui est très importante. Ouais, franchement, si t'es perdu, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a des gens comme moi qui sont perdus. Si t'es en train de postuler, que t'as l'impression que personne répond, t'inquiète même pas, il y a des gens comme moi qui ont envoyé des affaires de 200 CV, des affaires de 20, 25 entretiens. T'as des refus, t'as des gens qui te répondent pas. T'inquiète pas, tu vas forcément trouver quelque chose. Il y a une nouvelle phrase que j'ai mise en fond d'écran de mon PC, qui est une phrase que je me dis depuis quelques mois. Et qui, à force de me la dire, elle prend de plus en plus de sens dans ma vie, c'est ce qui est fait pour toi arrivera au bon moment. Juste continue de chercher. Et c'est sur ces mots très très poétiques que je te dis à tout de suite pour la conclusion. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'ai tenu à ce que toi et moi, on ait un petit date en freestyle que j'ai pas forcément préparé. Il est actuellement 6h24 du matin quand j'enregistre ça. Donc. Il y a tout le monde chez moi en train de dormir, c'est fantastique. Mais ouais, franchement, si t'es perdu, t'inquiète pas, on est ensemble, franchement. On est peut-être plus ensemble parce que maintenant j'ai un peu retrouvé un sens bancal à ma vie, mais on est quand même ensemble, tu vois. C'est normal, quel que soit l'âge que t'as, que tu sois dans ta vingtaine et que t'entres en école, que t'entres en études supérieures, que tu sois. Comme moi, tu as fini tes études ou que tu sois encore dans des études après 25 ans ou même que tu es 30, 40 ans, franchement, trouver un sens à sa vie, c'est pas un truc incroyable. Enfin, c'est pour moi, le sens de ta vie, tu le trouves pas forcément. C'est la quête qui va avec, tu vois. C'est vraiment le fait de constamment. Essayer de trouver quelque chose qui va te passionner, qui va te stimuler, qui peut-être donne un sens, tu vois, à ta vie. C'est vraiment le chemin que tu prends pour lui donner un sens qui est important, pas le sens en lui-même. Donc ouais, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir passé cette matinée avec moi. Et n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Donc c'est une vie d'adulte et tiré du 8. Si tu veux si tu veux me partager des trucs sur le sujet, si tu veux qu'on discute. Si tu veux que je te partage mes déboires pour que tu te sentes moins seul dans ta quête pour chercher du taf, n'hésite pas, je serai là. Donc ouais, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Bonne rentrée, si ta rentrée c'est cette semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À jeudi.